Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur, comme à Christ, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu, servant joyeusement, comme asservis au Seigneur et non pas aux hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit homme libre, quelque bien qu'il fasse, le recevra du Seigneur. Et vous, maîtres, faites-en de même envers eux, renonçant aux menaces, sachant qu'eux et leur maître et le vôtre est dans les cieux et qu'il n'y a pas d'acception de personne auprès de lui. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, par l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications. Pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte, pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'use de hardiesse, en lui comme je dois parler. Mais afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, comment je me trouve, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle serviteur dans le Seigneur, vous fera tout savoir. Je l'ai envoyé vers vous tout exprès, afin que vous connaissiez l'état de nos affaires et qu'il console vos cœurs. Paix aux frères et amour avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté.
Donc nous voilà à nouveau pour l'étude de cette épître aux Éphésiens pour la troisième année, pour le dernier chapitre de cette lettre. Peut-être que ce serait important de replacer ce chapitre que nous venons de lire dans le contexte de la lettre écrite par l'apôtre Paul alors qu'il est en prison. Il est enchaîné, on le trouve plusieurs fois dans le texte, et pendant cette période de prison, il a pu écrire plusieurs lettres, dont celle-ci. Les Éphésiens, il les a découverts lors de son voyage, son deuxième voyage missionnaire, où il était passé, et puis quelques temps plus tard, lors de son troisième voyage, il va rester 3 ans avec eux. Il le dit, lorsqu'il les verra pour la troisième fois, il fait venir les anciens de Milet. On trouve tout ça dans le livre des Actes des Apôtres. Il dit, vous rappelez, pendant 3 ans j'étais auprès de vous et il leur a parlé de Christ et l'Église. de leur responsabilité aussi comme chrétiens dans l'église à Éphèse. Et voilà, plusieurs années après, lorsqu'il est en prison, il va leur écrire. Et ce qui est très beau dans cette lettre, c'est qu'il va parler à ces chrétiens, puisqu'il s'adresse au début à des saints, je crois, en tout cas des fidèles, oui, des saints fidèles dans le Christ Jésus. Il s'adresse à eux, en quelque sorte pour leur dire que Dieu n'a pas comme projet simplement de sauver des gens de la mort. Mais son projet va beaucoup plus loin. Et il veut, et en particulier dans cette période qui suit la résurrection du Christ, sa glorification dans le ciel, la venue du Saint-Esprit sur la terre, pendant cette période, jusqu'au moment où il reviendra pour chercher les siens, il a comme projet Dieu de faire de ce qu'il va sauver des fils. Des personnes avec lesquelles il veut avoir des relations, il veut des fils pour lui, pour son plaisir, des personnes avec lesquelles il va pouvoir avoir une relation vivante, une relation, un échange. Et c'est le sujet du premier chapitre. Voilà, et c'est de faire de nous ses fils. Et pas seulement pour une période de la terre, pendant quelques années, mais pour l'éternité. Et il désire que ces croyants dont il veut faire ses fils sont et seront associés à la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le premier homme glorifié dans le ciel. Voilà, c'est son projet. Et il nous apprend aussi, Paul, que le projet de Dieu, c'est pas seulement de faire de ses croyants des fils isolés, mais des fils reliés les uns aux autres, liés les uns aux autres pour faire une famille, et qui est appelée l'Église, l'Assemblée, liée à Christ, épouse de Christ. Un cadeau à son fils, une épouse, c'est nous, hein, les croyants. Et ça, c'est aussi ce projet de Dieu. Mais dans quel état trouvent-ils les hommes, les femmes, sa créature? Dans un triste état, ils sont morts. Il faut leur donner la vie. Et c'est le sujet du chapitre 2. Et voilà que Jésus vient dans la mort pour nous en sortir. Il sort de la mort et tous ceux qui croient sont vivifiés, ressuscités avec le Christ. Et notre vie de chrétien aujourd'hui sur la terre, puisque nous sommes encore sur la terre, est dans une relation avec ce Christ glorifié, relation vivante. Alors ça c'est le thème du chapitre 2, et la paix est faite. Hein, là où il y avait la guerre, tout est paix, tout est unité. Et le chapitre 3 de cette lettre nous apprend que comment ces richesses, comment ces projets de Dieu peut-il être communiqué? Ben Paul dit par moi. Pour moi, c'est Dieu m'a fait cette grâce de pouvoir avoir cette révélation et je vous la communique. Et voilà, c'est dans le chapitre 3 et ça se termine par une adoration. Il sait plus quoi dire, quoi. À un moment donné, il dit on va adorer. Hein. Et puis toute l'Église va adorer parce que quand on est conscient de l'amour de Dieu, on ne peut pas faire autre chose. Alors tout ça pour dire, vous êtes des gens qui sont en relation avec un Dieu vivant dans le ciel, loin, tout ça, et puis vous êtes vivant sur la terre, alors vous allez tout arrêter, puis non, pas du tout. Et à partir du chapitre 4, alors avec tout ce que Dieu vous donne, tout ce que Dieu est pour vous, ce que vous êtes pour lui, eh bien vous allez vivre. Vivre sur la terre. Non, vous n'allez pas sortir de la terre, vous allez vivre sur la terre. Et dans le chapitre 4, on avait vu que vivre aussi ensemble. Alors, on est tous différents. Eh bien, comment est-ce qu'on peut vivre? Eh bien, parce que Dieu est aussi celui qui est celui qui veut que les chrétiens soient unis ensemble et il fait tout pour cela. Hein, c'est lui qui donne l'unité, qui donne ce qu'il faut pour que nous soyons unis ensemble. C'est pas parce qu'on va avoir des pensées communes qu'on va être unis, mais parce que c'est la source de l'unité en Dieu lui-même. et puis il nous donnera les moyens pour pouvoir vivre cette unité en offrant des cadeaux à l'Église, des dons de l'Esprit, pour que nous puissions être enseignés, pour qu'on puisse grandir, pour ne pas rester des bébés comme chrétiens, mais des adultes, hein, puisque ça c'est la pensée de Dieu, d'être des adultes, ceux qui peuvent être autonomes, mais autonomes dans une relation avec leur Dieu, avec leur Père. Et ce qu'on avait vu aussi il y a deux ans dans ce chapitre 4, c'est que nous sommes dans un monde où l'impureté est presque la norme. Et voilà, le fait que nous soyons en relation avec un Dieu vivant, qui est un Dieu saint, eh bien nous allons vivre dans la pureté, dans nos relations. Et c'était le sujet du chapitre 4. Et puis, au chapitre 5, on va être encouragé à vivre dans l'amour, marcher dans l'amour, des relations d'amour. Ah oui, on aime penser à l'amour. L'amour est, on est dans ce monde tellement à la recherche de l'amour. Mais là, voilà, l'amour nous est donné. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est communiqué par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu. Nous le recevons et nous pouvons le manifester dans nos relations les uns avec les autres. Ensuite, c'est marcher comme des enfants de lumière dans un monde qui est dans les ténèbres morales. C'est pas où il va. Hein, les hommes veulent gérer leur vie par eux-mêmes, ils sont dans les ténèbres. Et voilà, marcher comme des enfants de lumière. Et le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Marcher aussi avec soin, soigneusement, à partir du verset 15 du chapitre 5. Voilà, il y a aussi des occasions à saisir. Là où nous trouvons, laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Et là nous découvrons la sagesse de Dieu dans cette relation avec Dieu. Et puis nous pouvons vivre. Et alors on va chanter tout notre cœur. Et puis on avait terminé l'année dernière par ce paragraphe qui continue d'ailleurs pour cette année, qui avait comme titre, si l'on peut dire, un peu comme introduction, « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et c'était la clé de la vie en harmonie. Et on avait vu les relations de mari et femme, et qui était un exemple des relations que Jésus-Christ a avec les croyants, son Église. Des relations d'amour, des relations de respect, des relations de soumission. Hein. Et voilà, nous sommes arrêté l'année dernière sur ces pensées-là, hein, les devoirs aussi, puisque il n'y a pas que des droits. Même si dans ce monde aujourd'hui, on nous dit qu'il y a beaucoup de droits, on cherche nos droits, eh bien il y a des devoirs. Et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, le résultat d'une vie de relation avec Dieu, eh bien ces relations mari et femme peuvent être vécues. Et puis nous voilà donc arrivés cette année à ce chapitre 6 où nous retrouvons donc les enfants, les parents, les devoirs des enfants, les devoirs des pères. Et puis après, à partir du verset 5, il est parlé d'esclaves. Alors les esclaves, eh bien dans notre pays ici, il n'y en a plus, en tout cas officiellement. Mais cela va peut-être nous amener à nous interroger sur nos relations professionnelles. Hein, il y a encore des patrons, il y a des employés, il y a voilà des relations. Et c'est vrai, ce sont des grands débats qu'on a dans la société d'aujourd'hui. Alors la Bible nous parle aussi de ces relations, comment les vivre. Et puis pour cet après-midi, on regardera davantage notre vie de victoire, puisque c'est un grand bonheur de savoir que même s'il y a un ennemi puissant, il n'est pas tout puissant, comme on nous a dit hier soir, et il y a possibilité de vivre en victorieux. Donc voilà le programme de la matinée, c'est donc ces relations enfants-parents, parents-enfants. Et voilà, c'est vrai que aujourd'hui, On a bien des lois dans notre pays, même jusqu'à interdire dans les familles de les fessées, je crois. C'est dans des pays autour de nous, c'est déjà en vigueur. Voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on a des pensées de la part de Dieu pour nous aider à gérer, à vivre harmonieusement nos relations familiales? C'est bien souligné, Philippe, qu'on avait vu les deux années précédentes ces cinq expressions marcher. Marcher dans l'unité au début du chapitre 4, marcher dans la sainteté à partir du verset 17 du chapitre 4, marcher dans l'amour, chapitre 5, verset 2, marcher dans la lumière au verset 8, marcher dans la sagesse au verset 15. Et ensuite, en découler ces trois sphères dans lesquelles cette marche doit se vivre. Parce que ce n'est pas une marche éthérée, très théorique, mais elle se vit dans, dans notre quotidien. Et dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on passe du temps en famille, on passe du temps en couple. Donc on voit combien c'est important qu'il y ait des domaines d'application réalistes et immédiats aux exhortations qui ont précédé. Parce que c'est vrai que nous passons du temps en église, mais si on restreint l'application de ces verbes, de cette marche, à une marche d'église seulement, au moins quantitativement, le temps que l'on passe dans l'église, il est faible dans nos semaines, si on fait le compte en minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On passe surtout du temps à travailler, on passe surtout du temps en famille, on passe surtout du temps en couple. Donc on comprend que Paul veuille insister sur ces aspects-là. Et on avait vu la dernière fois qu'il y avait donc cette première sphère, la sphère du couple, et là on arrive au chapitre 6 et au verset 1, à la sphère de la famille, et des relations, aux relations parents-enfants. Et je trouve que c'est frappant que ce soit dans cet ordre-là, parce que la famille ira d'autant mieux que le couple va bien. Et on sait que le plus beau cadeau en tant que parents qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur montrer et de vivre en couple de façon unie. Le drame du divorce qui touche tant et tant de familles autour de nous, y compris dans l'Église, est là pour le prouver. C'est un déchirement pour les enfants et sans doute la délinquance, tout ce qu'on voit avec les adolescents qui de plus en plus jeunes sont absolument intenables. Eh bien, quand on discute avec les enseignants, par exemple, ils vous disent que dans 90-95% des cas, ce sont des enfants qui viennent de familles désunies. Donc tout ça pour dire que ce qu'on va dire ce matin sur les versets 1 à 4, c'est très important, mais il faut toujours qu'on ait en tête ce qu'on a dit l'année dernière sur les versets 22 à 33, parce que c'est la base. Et comment peut-on être honoré et être soumis à son père et à sa mère si justement le père et la mère sont là tout le temps à s'opposer ou s'il y a des dissensions dans le couple? Donc on voit que nous avons d'abord une responsabilité en tant que couple avant d'avoir une responsabilité en tant que parent. Un deuxième point que je voulais souligner, c'est que Paul s'adresse directement aux enfants. Alors nous qui sommes dans une génération post-dolto, ça nous semble totalement évident, mais c'était pas forcément évident à l'époque, parce que le statut de l'enfant, il a émergé, on peut dire, pour caricaturer, à partir de Rousseau. Mais dans l'Antiquité, un enfant, qu'est-ce que c'était? C'était une quantité un peu négligeable. Il n'y avait pas cette reconnaissance de la personnalité de l'enfant à respecter, à faire grandir, etc. Un enfant, il était enfant, et puis on attendait qu'il soit adulte. Et d'ailleurs, Paul en tire même argument dans Galates 3 pour montrer qu'il y a cet état d'enfant et puis cet état d'adulte, et l'état d'adulte est considérablement supérieur à l'état d'enfant. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que Paul, dans une modernité qui ne nous frappe pas aujourd'hui, mais qui à l'époque devait quand même être un peu choquante, comme dans d'autres passages et dans d'autres types de relations qu'il aborde, s'adresse directement aux enfants, en leur reconnaissant pas mal de choses, et on pourra le voir aussi à travers le verset 4. Le troisième point, c'est que
Cette lettre aux Éphésiens, qui était peut-être d'ailleurs une lettre circulaire pour les églises des alentours, eh bien, elle était lue comment? Elle était lue, on pense, en église, peut-être elle circulait d'église de maison en église de maison, enfin, elle était lue dans le cercle de l'église. Donc, ça veut dire que si Paul s'adresse aux enfants, c'est qu'il présupposait que dans la pratique ecclésiastique de l'époque, sur laquelle il nous est donné très très peu de détails dans le Nouveau Testament, mais néanmoins, que dans la pratique ecclésiastique de l'époque, les enfants, ils étaient là, à l'église. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que Daniel, tout à l'heure, a prié pour qu'il y ait quelque chose pour les enfants. Eh bien, on est heureux qu'il y ait des enfants ici. C'est vrai que, sinon, si on n'était que des adultes ici, ces exhortations-là, on pourrait se les donner entre nous, mais ça aurait moins de portée. Donc on est heureux qu'il y ait des enfants. Alors, là aussi, il faut maintenir l'équilibre. On en parlait un petit peu avec Frédéric dans le train hier, pas directement d'ailleurs par rapport à ce verset, mais tu me rappelais qu'il y avait tu avais assisté à une conférence il y a des années où les enfants étaient pris en charge jusqu'à 30 ans, ou quelque chose comme ça. Bon, on voit que c'est nécessaire sans doute d'avoir des rencontres comme celle-ci où les enfants sont les bienvenus et peuvent écouter ce qui se dit. D'un autre côté aussi, on voit que dans d'autres épîtres, par exemple l'épître à Tite ou l'épître à Timothée, Paul demande à Tite ou à Timothée de s'adresser à des catégories particulières, les jeunes gens, etc. Donc on voit qu'il y a place pour les deux. Il y a place pour des rencontres plénières où les enfants sont là comme les esclaves, comme les parents, comme tout le monde. Puis il y a place aussi sans doute à un enseignement spécifique adapté à la classe d'âge. Et je crois qu'on a parfois oscillé entre un extrême et l'autre. C'est pour ça que c'est heureux si on peut le réaliser en ayant à la fois des écoles du dimanche ou des rencontres de jeunes dédiées à une classe d'âge donnée et aussi des rencontres plénières comme celle-ci où tout le monde peut être autour de la parole de Dieu tous ensemble.
Cet enchaînement, d'abord le couple, ensuite les relations parents-enfants, ensuite les relations maître-esclave, qu'on appliquera à employeur-employé tout à l'heure, exactement ce même enchaînement est dans l'épître aux Colossiens, à la fin de l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, 18 à 25. Avec exactement le même ordre, et presque mot pour mot, donc je propose une toute petite lecture parallèle du paragraphe sur les enfants. Donc, je l'ai préparé ici, je lis à chaque fois d'abord Éphésiens, et puis en parallèle Colossiens. Et je dis pas enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Dans le Seigneur, dans les Éphésiens, en toute chose, en Colossiens. Éphésiens, car cela est juste. Colossiens, car cela est agréable dans le Seigneur. Et puis maintenant, des compliments dans les Éphésiens. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Donc tout ça, c'est en plus dans les Éphésiens. Et puis après, on arrivera à « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants. Colossiens, pères, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne soient pas découragés. » Continue Colossiens. Et puis Éphésiens, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Donc immensément de parallèles, beaucoup de répétitions, c'est un sujet qu'il avait à cœur, et il le répète à deux églises auxquelles il envoie chacune sa lettre. Donc il a à cœur un sujet, et il le donne, il n'a pas peur de répéter, de dire plusieurs fois. Et puis ça se complète, et ça s'enrichit. En particulier, peut-être un point, c'est que il donne dans les Éphésiens, là, dans ce qu'on a lu, il donne des arguments, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Donc, il donne aux enfants des arguments pour, je dirais, motiver cette obéissance. En passage, il prend la citation de la loi, il dit que cela est juste, Il insiste sur le fait que afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre, en citant l'Ancien Testament, donc il donne des arguments, un peu comme s'il tirait là aussi l'enfant vers le haut. Hein, Joël vient de dire, voilà, est-ce que dans les réunions on a des paroles pour les enfants? Et là, il s'adresse directement à eux, et puis il leur donne des arguments avec la parole. Il les tire vers le haut. Il leur dit, mais voilà. Pensez, regardez, c'est l'enseignement même déjà de la Bible, de l'Ancien Testament. Quand on élève des enfants, des fois, on peut être amené à être abrupt et à dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Sans jamais donner d'argument, sans jamais donner de raison, sans jamais expliquer, de tirer l'enfant vers le haut. Parce qu'on verra tout à l'heure, on l'élève. Et autre point, dans les Éphésiens, où donc on a vu qu'il y a un petit peu plus long, il donne justement des arguments où il utilise la loi. Dans les Colossiens, ils avaient à la limite une petite tendance au légalisme, donc il ne leur cite pas la loi. Ici, dans les Éphésiens, il s'appuie là sur la loi, sur l'Ancien Testament, pour établir son point.
On apprend en passant que les enfants peuvent avoir une véritable intelligence spirituelle et un véritable discernement. À leur niveau, bien entendu. On a l'habitude de traiter les enfants d'une certaine manière, ça correspond un petit peu à ce qui a été exprimé. À les laisser à un niveau qui est considéré comme un niveau inférieur, c'est vrai qu'ils ont une expérience limitée, ils ont beaucoup de choses à apprendre, puisque nous-mêmes, on se rend compte qu'au fur et à mesure que les années s'écoulent, on apprend et on a toujours à apprendre. Mais l'expression qui peut surprendre ici, dès le verset premier, est celle-ci, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur ». Voilà, les enfants peuvent entendre ceci. C'est pas simplement « papa a dit, maman a dit », mais dans le Seigneur. Donc les enfants ont à prendre conscience du fait qu'au-dessus des parents, il y a l'autorité, la véritable autorité, l'autorité par excellence et une autorité dans l'amour, et qui sont placés dans ce cadre-là. Il m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres sans doute, de dire à mes enfants « voilà, moi j'ai l'autorité qui m'a été donnée ». Mais je vous dis ce que je vous dis et je vous élève de la manière selon laquelle je vous élève, parce que j'ai trouvé les choses dans la parole de Dieu et parce que l'autorité dont je dépends me dicte cette conduite-là. Donc, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Ça change toute la vie de voir qu'on est aimé des parents, qu'il y a une discipline parce qu'elle va avec l'amour, mais qu'au-dessus de cette réalité physique au niveau de la terre, il y a quelqu'un qui apporte un enseignement, quelqu'un qui dicte une conduite et auquel tout le monde doit être soumis, les parents et les enfants. Donc on retient ceci, obéissez à vos parents dans le Seigneur, voire au-dessus des parents, le Seigneur lui-même.
Ce qu'il y a, c'est que, quand on lit ce passage, on comprend que l'obéissance est juste. Cela est juste. Et alors, on peut peut-être être surpris, comme tu l'as remarqué, que l'apôtre Paul utilise des passages de la loi. Et puis, quelqu'un pourrait dire, oui, mais aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Et pourtant, là, la Bible nous montre comment, justement, l'Ancien Testament, la loi, est utile. Et comment l'Esprit de Dieu utilise la loi. Alors, l'obéissance est un commandement. C'est juste, et c'est un commandement. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit aussi dans la loi, et en particulier dans 10 commandements, ce qu'est la pensée de Dieu et d'un Dieu juste. Et cette pensée de Dieu, elle est toujours juste aujourd'hui. Et quand il s'agit alors d'obéir, obéir, il me semble que c'est une des caractéristiques de ce que le Seigneur Jésus a montré dans sa vie. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et le Seigneur, Dieu nous invite, au fond, à ressembler au Seigneur Jésus, et quand nous marchons dans un chemin d'obéissance, nous marchons d'une certaine manière à la suite du Seigneur Jésus. Et ça peut se faire, et on est invité à le faire déjà quand on est tout enfant, mais je crois que dans cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit qu'on doit garder toute sa vie d'une certaine manière, être soumis. Et ça, c'est toujours le chemin il me semble, c'est le chemin qui est selon Dieu, apprendre à être soumis. Parce que de la vraie soumission à Dieu découlera alors, quand on est plus âgé, la vraie autorité.
Alors ce point-là sur la soumission, on l'avait beaucoup discuté l'année dernière en 5.21, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, et finalement, c'était le verset qui était juste avant l'enchaînement des trois paires de relations, couples de relations, femme-enfant, femme-mari, enfant-père ou enfant-parent et esclave-maître. Et donc, il y a une grande symétrie dans ces trois, puisque les trois sont proposés dans le même ordre dans les deux épîtres, et en plus aussi dans le même ordre dans la façon dont c'est présenté, et c'est toujours le membre, on va dire, soumis, qui est présenté en premier, la femme, l'enfant, l'esclave. Peut-être pour nous dire toute l'importance qu'avait justement, et ça on retrouve la modernité dont parlait Joël, l'importance de l'épouse, l'importance de l'enfant, et aussi l'importance à l'époque de l'esclave dans un monde où vraiment il était considéré comme rien. Donc une très belle attention de la part de l'auteur, de donner de l'importance à ceux qui en manquaient peut-être à cette époque-là, plus particulièrement, donc immensément moderne, presque révolutionnaire. On le verra pour l'esclavage en particulier. C'est aussi pour montrer l'importance du sujet, et ça revient au fait que la soumission, c'est vraiment une clé, et en fait l'orgueil, l'insoumission, le fait de ne pas obéir, c'est au fond la faute originelle, c'est vraiment le sujet de base. Donc, sujet très important, très fort. Petite nuance toutefois, on a deux fois le verbe obéir, mais on ne l'a pas pour la première relation. On n'a pas du tout « femme obéissait au mari ». Donc, les enfants obéissent, les esclaves obéissent au maître, mais dans la première relation, ce n'est pas du tout une relation d'obéissance, mais de soumission, on n'y revient pas, c'était le sujet de l'année dernière. En revanche, l'état d'esprit dans le couple, la façon dont ça se passe bien dans le couple, déteint beaucoup, ensuite, sur la façon dont ça se passe entre parents et enfants. Et il y a un parallélisme entre ces trois relations, qu'il ne faut pas perdre de vue, et qui a dans les deux sens, c'est-à-dire si ça se passe bien, c'est un beau parallélisme, effectivement. Une belle relation de couple va aider à ce que la relation enfant-parent se passe bien, et aussi sûrement au travail. Et quand ça se passe mal, ça a aussi des conséquences. Combien de fois on entend nos enfants nous parler, soit comme on leur parle mal, soit éventuellement c'est dans le couple où on se parle mal, et on le réentend de la part des enfants. Ou des fois, il y a des maris qui s'adressent à leurs épouses, comme on s'adresse à des enfants, en donnant des ordres. Alors là, par contre, ils n'ont pas compris que ce n'est pas le même mot. Enfin, voilà, tout ça est très lié et très, très imbriqué.
Je crois qu'il faut que l'on s'arrête un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire dans le Seigneur. Je crois que pour les enfants, c'est important. On a peut-être un premier sens dans ce qui est dit au Père, les avertissements. Mais c'est beaucoup plus qu'une règle, ou beaucoup plus qu'un rapport c'est beaucoup plus qu'une règle ou qu'un rapport légal, c'est-à-dire dans le sens « fais ceci et tu vivras ». Il y a peut-être une deuxième piste là aussi dans ce qu'il est dit, parce que c'est frappant qu'il nous soit rappelé que le commandement que l'apôtre cite, c'est le commandement avec promesse, il y en avait très peu. C'est-à-dire qu'il y a un but, on savait pourquoi, à l'avance, il fallait obéir, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. C'est donc un but que l'enfant apprend petit à petit, ou découvre plutôt petit à petit, c'est que ce n'est pas pour l'instant même que ce qu'il fait dans cette soumission, dans cette obéissance est important, mais c'est pour le futur. C'est pour sa croissance, c'est pour son épanouissement. Alors, dans le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il a à découvrir, avec l'aide bien sûr de ses parents, ce qu'est le Seigneur dans sa plénitude, dans son amour, dans sa grâce? Et est-ce qu'il n'a pas à voir aussi dans ses parents ce que le Seigneur produit, ce que le Seigneur fait, la transformation en comparant, comme il le fait souvent, entre ceux qui ne connaissent pas, les parents qui ne connaissent pas le Seigneur et puis les siens. Une des caractéristiques de l'enfant, nous le savons tous, nous, parents, c'est qu'il demande pourquoi. Pourquoi ceci? Il a besoin d'un but. Et l'apôtre, donc, j'y reviens ici, il le mentionne, et c'est un petit peu aussi pour les parents qu'il parle, dit, faites attention, ne les placez pas dans un cadre strictement légal, sans but, sans vision, sans leur dire pourquoi. Et ça aussi, c'est un exercice important. Est-ce que nous, parents, nous avons été, ou nous sommes, suivant l'âge que nous avons été de ceux qui peuvent être une aide pour qu'ils découvrent le Seigneur dans tous ses aspects.
Ça va aller, merci, ça sera pas long. Je voulais juste ajouter un petit mot par rapport à la notion d'autorité. On en a beaucoup parlé, je crois que c'est un point fondamental. Ce qu'on n'a pas dit, qui me paraît important, c'est que l'autorité, ça ne s'attribue pas tout seul, mais c'est reçu de quelqu'un. Alors, on le voit, bon, je prends un exemple pratique, dans le monde du travail, il n'y a pas quelqu'un qui va s'autoproclamer « je suis chef ». En revanche, le jour où sur le panneau d'affichage, le grand chef a dit, le patron a dit, telle activité est confiée à monsieur ou madame un tel, à qui est rattachée telle équipe avec telle et telle personne, là on comprend qu'il y a une autorité qui a été déléguée ou donnée de la part du patron, d'une personne sur son équipe. Dans la parole, on trouve ça aussi. On voit que le Seigneur à l'opposé ou à la différence de beaucoup d'autres, avait reçu toute autorité. Il dit, j'ai reçu toute autorité de la part du Père. En revanche, quand le Seigneur délègue, par exemple, je pense à ce passage, quand il envoie ses disciples, c'est dans Marc et dans Matthieu, et qu'il leur donne autorité pour chasser les démons et guérir des maladies, il donne un périmètre à cette autorité. Donc, ce à quoi je voudrais en venir, hein, par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est que l'autorité, elle est donnée, d'abord, donc on reconnaît qu'il l'a donné, et secondo, cette autorité, elle a un périmètre. Donc quand on va parler, je reviens sur ce que disait Peter dans le Seigneur, quand on va parler des relations entre les parents et les enfants, je crois que dans le Seigneur, ça veut dire ces deux choses. C'est-à-dire, d'une part, ça veut dire que l'enfant, il a la responsabilité d'obéir parce qu'il reconnaît que l'autorité que ses parents ont sur lui est donnée de Dieu, que Dieu a confié aux parents le devoir d'exercer une autorité sur les enfants. Et secondo, dans le Seigneur, il me semble, ça veut dire aussi qu'il y a un périmètre à cette activité. S'il y avait, alors je ne sais pas si c'est le cas parmi nous, mais quand quelquefois dans des familles, on a des enfants qui sont
croyants qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur, mais qui sont dans des familles où les parents sont incrédules. Eh bien, le périmètre de l'autorité que le Seigneur délègue aux parents s'arrête au domaine matériel et n'entre pas dans le domaine spirituel. Et donc, il y a une limite, et je crois que c'est aussi le sens de ce mot-là, dans le Seigneur. Et puis, on reverra la même pensée, enfin, on verra où vous y penserez, hein, lorsqu'on parlera des maîtres et des esclaves, ou des patrons et des employés. Il y a la même notion qui s'applique.
À quel âge on a un enfant ?
Parce que, justement, il me semblait important de revenir sur ces trois verbes, « soyez soumis », ça on l'avait vu, « obéir » et « honorer ». « Soyez soumis », c'est donc une démarche volontaire de celui qui décide de se mettre en dessous. L'obéissance pour les enfants, je dirais, c'est pas une option. C'est la structure de la société telle que Dieu l'a voulu au commencement, à la création, c'est une structure créationnelle de base de l'humanité qui n'est pas une option. Mais ça, c'est pour les enfants. Et le terme là-dessus, c'est assez clair, c'est les enfants. Alors après, l'honneur dont il est question par rapport au père et à la mère, si directement il s'adresse aux enfants, c'est-à-dire aux enfants qui sont encore sous l'autorité de leurs parents, et ça vaut la peine effectivement de dire un mot là-dessus, on l'a souvent dit, hein, elle continue toute la vie, même si elle ne prend pas le caractère d'obéissance. C'est vrai que c'est triste de voir des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui sont encore des petits garçons à leur moment. C'est pas quelque chose qui est selon Dieu, puisqu'on doit avoir une stature d'adulte. Et l'éducation doit justement être conçue pour amener les enfants à une stature d'autonomie. Alors après, par rapport à l'âge, ça dépend éminemment des cultures, des sociétés, c'est pour cela que je trouve que c'est très sage de la part de l'apôtre Paul de ne pas avoir donné d'âge limite. Est-ce que c'est 21 ans, est-ce que c'est 18 ans, est-ce que c'est 15 ans, suivant l'ancienne majorité, la majorité sexuelle, bon, enfin, on voit qu'il y a sans doute des gradations. Ce qu'on peut dire, c'est que, alors après, ça c'est un vécu peut-être un peu plus subjectif, c'est que je pense qu'il y a une indépendance qui se fait, une indépendance affective graduelle, une indépendance intellectuelle aussi qui commence plutôt à l'adolescence, et puis une indépendance financière qui est aussi quelque chose d'assez important. Et on comprend que quand il y a cette indépendance sur ces trois aspects-là, alors, me semble-t-il, la phase d'obéissance se termine, et la phase d'honneur, elle, continue à courir tout au long de la vie. Ça veut dire qu'on ne va pas faire comme si nos parents n'existaient pas, mais on va écouter leurs bons conseils, pas forcément les suivre tout le temps, même si souvent ils sont marqués au coin du bon sens et de l'expérience. Mais enfin, on va les honorer en ce sens-là. Les honorer aussi, moi je pense que ça tient beaucoup dans une autre société qui est très cellule nucléaire, avec les parents et les enfants seuls, on n'est plus dans les grandes tribus d'autrefois, ça tient beaucoup par des nouvelles. Tenir les parents au courant, prendre des nouvelles, etc., puisque parfois on vit à des centaines ou des milliers de kilomètres les uns des autres. Donc honorer ses parents, c'est aussi cette dimension-là, me semble-t-il, en tant qu'enfant adulte. Et on voit que ce point-là déboule sur un commandement avec promesse, afin que tu prospères, que tu vives longtemps sur la terre. Alors là, cette expression, ce verset 3, il m'a souvent surpris, parce que on est dans l'épître aux Éphésiens, on est dans les lieux célestes, alors qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on ajoute quelques années de vie sur la terre? Ça semble un peu raplapla par rapport au niveau de l'épître, hein, sous-entendu. Mais on a déjà vu au chapitre 4 que l'épître n'hésitait pas à aborder le raplapla, puisque on a des exhortations à ne pas voler, ce qui n'est pas très élevé, pour reprendre un verbe qu'on utilise parfois. Donc, l'épître aux Éphésiens, elle est là aussi pour nous dire comment on vit concrètement sur la terre. Et c'est vrai que quand on dit à un petit enfant, ne touche pas le feu, sinon tu vas te brûler, s'il n'obéit pas à ce commandement très clair et très simple, eh bien, il risque d'avoir des dommages, y compris et jusque pour sa vie. Si on dit à un jeune, si tu prends du shit, tu risques de développer une schizophrénie, parce que c'est ce que les études tentent à monter de plus en plus, eh ben, effectivement, on se préoccupe de sa vie sur la terre. Si on dit à quelqu'un, il faut mettre le casque quand tu es sur ta mobylette ou ta moto, c'est aussi pour que tu vives longtemps sur la terre. C'est pas des brimades pures, c'est aussi dans ce sens très physique et très concret. Alors, le commandement n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui obéissent bien et qui ont quand même des accidents. Donc on est dans la règle un peu proverbiale, je dirais. C'est vrai pour la structure de la société, c'est pas forcément vrai pour chaque cas individuel. Mais globalement, on s'aperçoit qu'une société où il y a une discipline, eh bien, est une société où les choses se passent mieux. Et aujourd'hui, franchement, on peut être vraiment inquiet de la délitation de notre société occidentale. Du fait de ce manque de discipline, il est interdit d'interdire. Le mot de 68 est vraiment rentré dans les idées. Et du coup, on est dans une société qui risque de vivre moins longtemps. Dans ce sens-là, on ne va pas faire un développement sur la chute des civilisations, mais on s'aperçoit quand même que notre civilisation occidentale, globalement, est en danger, en particulier par l'oubli de cette obéissance aux parents et aux autorités déléguées que sont les professeurs, les policiers, les pompiers, tous ceux qu'on caillasse malheureusement au quotidien dans les cités.
Dans l'Ancien Testament, il y a des exemples qui nous instruisent au sujet des parents et des enfants. Je vais dans le premier livre de Samuel, au sujet d'Élie. La parole nous parle ainsi de la faiblesse d'un père. C'est un exemple. C'est vrai que nous devons confesser que nous avons beaucoup manqué envers nos enfants. Premier livre de Samuel, et la parole nous dit que Élie, il lui est reproché, « Tu honores tes fils plus que moi », est-il dit. Et alors, plus loin, il est dit qu'il y a encore un passage, que Dieu, il y a un reproche qui est fait à Élie, ce que il avait été révélé à Samuel, il est dit que Élie n'a pas retenu ses fils, il est dit quelque part. Ses fils se sont avilis et tu ne les as pas retenus. Voilà ce que la faiblesse d'un père. On voit les conséquences qui sont là où il y a une ruine complète, même au sujet de la sacrificature. Et on voit comment le jugement est tombé. Et on constate que nous avons des responsabilités envers nos enfants. Alors, d'un autre côté, plus loin, dans le premier livre des rois, là il s'agit des enfants. On pourrait peut-être bien critiquer cette scène au sujet du prophète. Il a dit que le prophète monte à Bethel, et comme il montait par le chemin des petits garçons sortis de la ville, ils se moquaient de lui dire « Mon chauve, mon chauve », et se retournant en arrière, il est vit, il est maudit au nom de l'Éternel. Les deux ours sortis de la forêt, et déchirés d'entre eux 42 enfants. Alors, on pourrait être bien choqué d'une telle scène. Et pourtant, Dieu, bien plus tôt, avait prévenu ces choses. Et ça se trouve dans Lévitique 26-22. Donc, il s'adresse aux parents, d'abord, au verset 21, « Si vous marchez en opposition avec moi et que vous ne vouliez pas m'écouter, je vous frapperai encore 7 fois plus, selon vos péchés. » Et j'enverrai contre vous les bêtes des champs qui vous raviront vos enfants et dépuieront votre bétail et vous répuieront en un petit nombre et vos chemins seront désolés. Donc on peut dire que Dieu avait averti ainsi ce qui se passe dans le deuxième le livre des rois. Dieu avait averti. Et c'est vrai que vous réalisez que sont loin de ce que le Seigneur désire quant à nos manières d'agir envers nos enfants. Mais aussi, je m'arrête après, pas prendre trop de place, il y a la responsabilité de la maman. Et là, on pourrait lire peut-être la maman de Moïse. Et il nous est bien dit que là, puisqu'il y avait, l'ordre avait été donné de jeter les enfants au fleuve, et elle a fabriqué ce coffret de joncs, hermétiquement fabriqué pour que Moïse puisse ainsi survivre sur ce fleuve. C'est-à-dire qu'on peut garder nos enfants un certain temps. Il est parlé de 3 mois, et alors après il faudrait les jeter, on ne peut plus les tenir. Une fois qu'ils sont adultes, ils prennent leurs décisions, mais c'est la maman qui doit fabriquer ce coffret de jonc, les protégeant ainsi de l'extérieur, des dangers de ce qui vient de l'extérieur, comme Moïse a été protégé, et on voit que Dieu veille sur la scène, et ce sera une bénédiction pour la maman. Voilà ces relations enfants-parents et nos responsabilités.
Juste me permettre de répondre à la question de Jean un petit peu, de façon peut-être relativement très précise. Donc, qui dit précision dit peut-être exagération, mais pour donner aux jeunes parents, notamment, ou aux futurs parents, peut-être une ligne de conduite vis-à-vis de leurs enfants. L'enfant de 1 à 5 ans a besoin de savoir une chose essentielle dans sa vie, c'est qu'il est aimé de ses parents. Si cet amour manque, comment pourra-t-il comprendre un jour qu'il est aimé de Dieu le Père? C'est tout simple. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais c'est le principal. Beaucoup diront, puisque tu as parlé d'Oulto, donc on peut parler un peu de psychologie, diront que ce manque d'amour peut être définitif et être recherché toute la vie par un enfant qui n'en a pas eu. Après 5 ans, on peut mettre une étape de 5 à 12 ans. 5 à 12 ans, l'enfant apprend l'environnement, apprend la discipline, apprend le oui, le non, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il doit faire. Il a son cadre de vie. De vie, bien sûr, sociale, parentale, mais évidemment, pour nous, spirituelle. Jusqu'à 12 ans. À 12 ans, c'est la puberté. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, l'enfant peut, et c'est l'idéal, mais il n'a pas toujours, a un projet de vie. Un projet peut-être pour un métier, il veut être pompier, il veut être infirmière, il a un projet. Et à ce moment-là, le rôle des parents, c'est d'aider l'enfant à développer ce projet dans sa vie. Alors, les 5 ans, on ne les trouve pas forcément. Les 12 ans, vous pouvez le lire dans Luc au chapitre 2, où on connaît cette scène où Jésus se retrouve au pied des pharisiens et apprend, et dit « Je suis maintenant au service de mon Père ». Il a son projet. Et ce projet, donc, va durer jusqu'à, allez, on va dire des âges, je me lance, 18-25 ans. À partir de là, le rôle des parents est de faire de l'enfant un adulte. Capable, c'est-à-dire que c'est quoi un adulte? Quelqu'un de capable de s'auto-gérer à tous les points de vue. Voilà. Simplement, c'était pour dire cette petite chose. Je pense que garder ces choses en vue, c'est bien pour les futurs parents. C'est peut-être pas des choses qu'on a apprises il y a longtemps. Mais je pense que le Seigneur, depuis le début, nous demande ça. En effet, on ne peut pas rester des enfants tout le temps. Et donc, ça voudrait dire, et c'est là peut-être une chose d'abord, que la conversion se fait avant 12 ans. Mais, on le sait bien, c'est que les enfants, ils n'ont qu'une envie, et ça il faut le savoir quand ils sont jeunes, c'est de faire plaisir à papa et à maman, même si ça n'a pas le montré. Et quand on voit papa et maman aimer le Seigneur, eh ben ils aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur. Et ils veulent faire plaisir. Et ça aussi, il ne faut jamais le perdre de point de vue. C'est que l'enfant cherche à faire plaisir. Et donc comprendre pourquoi certaines réactions de l'enfant est bizarre pour nous. Et c'est là où en effet, comme on a bien marqué, l'autorité, c'est quelque chose qui est dans l'amour. Parce qu'une autorité sans amour, ça mène nulle part et surtout ça ne fait pas grandir la personne qui est sous l'autorité.
Je
Peut-être encore une chose sur la citation de la loi. Et quand on lit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, il est dit ainsi, verset 3, « Lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis à des éléments du monde. » Donc, nous étions asservis à la loi. Et il me semble que dans l'éducation, au fond, il y a des choses, il faut que le cadre dans lequel l'enfant doit grandir doit être clair avec il y a des choses autorisées, des choses qui ne le sont pas, il y a des dangers, une sorte d'ensemble de règles de vie que l'enfant doit apprendre. Et en particulier, si on n'apprend pas l'obéissance tôt, on ne l'apprendra jamais. Et il me semble, alors là je vais pas contre ce que tu as dit, mais un petit enfant, vous savez, quand il commence à marcher, qu'il commence à trouver ses marques, c'est très amusant, on s'amuse de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, on rit facilement de ses mots, et c'est juste. Mais il faut aussi qu'à ce moment-là, il apprenne à ce que c'est déjà tout petit, quelles sont les limites. Et dans cette éducation-là, il me semble que déjà, très très vite, l'enfant apprend déjà à être rassuré dans les limites fixées avec amour par les parents. Et c'est comme ça qu'il me semble qu'il y a quelque chose. Alors, bon, on a eu 6 enfants, ils sont plus nos petits, ils restent toujours quelque part nos petits, et on sait aussi qu'on a fait beaucoup d'erreurs, et je suis tellement reconnaissant au Seigneur que l'éducation, ce n'est pas... il y a la grâce de Dieu qui va produire les fruits. Nous mettons des choses en route et Dieu donne la vie et fait grandir. Et il y avait des relations de cause à effet constantes, une erreur produisera un mauvais effet, eh bien ce serait effrayant. Je voudrais peut-être rappeler juste une chose. Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants, les premiers. Ils ont, je pense, été élevés de la même manière. L'influence du monde, je ne sais pas trop ce que c'était à ce moment-là, mais il y en a un qui s'appelait Abel, l'autre Caïn, et on connaît quelle a été la suite de leur vie. Et c'est au fond, à un moment donné, Abel et Caïn ont dû choisir. Ils ont leur propre responsabilité dans la suite de leur vie.
Ce qui nous a occupé là, c'est les enfants obéir, honorer, et puis père, n'irritez pas, élever. Et nous rendons compte que, et nous posons la question maintenant, comme parents, quel exemple avons-nous donné ou donnons-nous aujourd'hui à nos enfants? Est-ce qu'on leur facilite cette exhortation qu'ils entendent, obéissez, par une vie qui respecte Dieu, qui se soumet à Dieu? Honorer, ce n'est pas seulement une exhortation pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et Pierre dit honorer tous les hommes, et puis le roi, honorer. Donc dans la mesure dont nous honorons, respectons ceux qui nous entourent, eh bien, nous facilitons la vie à nos propres enfants. Et puis, père. Et on voit que là, il y a une vraie relation. Et on pourrait se demander, est-ce que beaucoup d'enfants, même parmi les chrétiens, n'ont pas de parents, n'ont pas de père, même si physiquement ils l'ont, tu m'ennuies, je suis occupé. Hein, c'est ça la relation. Ou voilà, simplement des relations d'ordre. Voilà, tu dois faire ça, ça et ça. Et c'est vrai qu'en parlant comme ça, ça me reprend aussi en même temps, parce que dans le feu de l'action de notre vie, eh bien, on est souvent occupé de sa propre vie, même sachant que on a des responsabilités, on a de la difficulté à les vivre. Mais là, c'est le rôle de parents, c'est de nourrir, mais pas seulement de nourrir physiquement, d'aider nos enfants à un projet de vie, comme Marc disait tout à l'heure, mais aussi de les nourrir de ce qui nourrit notre propre vie. Et on espère que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui nourrit notre vie. Alors les nourrir, voilà. On parlait de la maman, c'est vrai. Moi, j'étais étonné que les pères, là. Mais quand on a l'histoire de Moïse tout à l'heure, eh bien, c'est vrai que dans Exode, c'est la maman. On voit qu'elle a toutes les occupations de la vie de tous les jours. C'est la maman dont il est parlé dans Exode. Puis quand c'est rappelé dans le livre des Actes, eh bien, c'est le père. Hein, il était dans la maison de son père, qui avait ce rôle de protéger aussi son enfant des puissances extérieures, de tout cela. C'est tellement important de garder le contact. Parce que là, si c'est l'enfant qui doit obéir dans le Seigneur, c'est que déjà il a fait une démarche avec le Seigneur, ou en tout cas il est en train de faire cette démarche. Donc on se rend compte que c'est important de garder une relation, un contact. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'ils en sont? Hein? Et voilà, tellement de choses qui coupent la relation aujourd'hui. Pas seulement les activités, tant de choses à la maison même. Hein, qui font que chacun peut passer toutes les journées, chacun dans son coin. Voilà, donc ici, n'irritez pas vos enfants, parce que c'est vrai que quand un père est occupé de ses affaires, dès qu'on lui dérange, eh bien, la réaction est forte. Hein, je crois que chacun a pu comprendre, ceux qui ont eu le privilège d'avoir des enfants. Voilà, n'irritez pas. Donc, pouvoir donner quelque chose qui est acceptable, faisable, hein, et je crois que cette sagesse, eh bien, nous de parents, c'est encore une fois dans la relation avec notre Dieu, la manière dont nous vivons notre relation de soumission et d'honneur, comment nous honorons notre Dieu, que nous pourrons être de ceux qui n'héritent pas, mais qui élèvent. Et je crois que c'est quelque chose qui est très beau. Il y a le côté négatif, mais le côté positif. Alors, élever, hein, c'est pas quelque chose qui se fait de temps en temps, mais voilà, c'est tout un processus quotidien.
Alors, tu disais, il n'y a pas mentionné la mère. La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, traduit « vous, parents ». Et la traduction peut se justifier de la même manière quand on dit « les hommes », on inclut bien les hommes et les femmes en français, de la même manière aussi que quand il est question « frère », eh bien, c'est pas forcément « homme-frère », quand c'est précisé, ce ne sont que les hommes, mais « frère », ça veut sous-entendu « frère et sœur », là, on peut bien penser que père inclut aussi implicitement père et mère, parce que c'était une manière de s'exprimer à l'époque que de dire père pour inclure aussi les mères. Et cela est d'autant plus justifié que le terme qui est donné ensuite est le vélé dans la discipline. La discipline, si on voit la traduction grecque de l'Ancien Testament qui s'appelle la Septante, eh bien c'est le mot qui traduit l'instruction qu'on trouve dans les proverbes, tellement, tellement souvent dans les proverbes. C'est le même mot. Et l'instruction dans les proverbes est rapportée tout autant à la mère qu'au père. Donc on voit que de ce point de vue-là, on est sur une sphère qui englobe les deux parents. Mais néanmoins, je trouve que la pointe que tu soulignais, Philippe, par rapport au père et à la démission du père dans notre société, où il y a tant de familles monoparentales, où l'éducation des deux côtés est laissée à la seule mère, eh bien, est particulièrement d'actualité pour nous. Sur le fait que, en tant que père, j'ai un rôle important dans l'éducation de mes enfants, et ce rôle, il est mesuré. Et là aussi, la note de modernité ne se perçoit peut-être pas autant aujourd'hui qu'elle pouvait se percevoir à l'époque, mais dans la société romaine, le père avait tout pouvoir sur ses enfants, y compris jusqu'à les mettre à mort. Alors ça nous paraît monstrueux aujourd'hui, encore que on pourrait discuter de l'avortement, néanmoins, frappant de voir que là, Paul ne dit pas « Père, et vous avez bien raison d'user d'autorité envers vos enfants et surtout veiller à ce qu'ils vous obéissent en toute chose ». Non, 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 au contraire, il restreint. De la même manière qu'il va restreindre ensuite la toute-puissance du maître sur l'esclave, là il restreint la toute-puissance du père sur les enfants en mettant en exergue la responsabilité et non pas les droits. On l'a dit tout à l'heure, hein, qu'on est dans une civilisation qui fait valoir ses droits. Paul insiste au contraire sur la responsabilité. Et cette responsabilité, elle est donc à la fois côté négatif, côté positif. Sur le côté positif, ce qui est intéressant, c'est que le mot qui est utilisé ici, élevé-lé, c'est le même verbe qu'on avait déjà trouvé au chapitre 5 et au verset 29. Personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il l'a nourrie. et en prend soin comme aussi le Christ. Il a nourri. Sorte qu'on pourrait traduire, mais nourrissez vos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Et j'aime bien cette nuance. Nourrissez-les. On voit tout ce qu'il faut apporter à ses enfants, en tant que père en particulier, la responsabilité qu'on a d'apporter à nos enfants. De la nourriture qui les aidera à grandir. Alors, nourriture physique, bien entendu, et on est attentif à, surtout actuellement, aux 5 légumes et fruits par jour, mais nourriture aussi, nourriture intellectuelle, qu'est-ce que je vais leur proposer comme livre, comme film, etc., comme loisir. Nourriture, évidemment, spirituelle, comment je vais les nourrir dans ce sens, comment je vais faire la lecture de famille. D'abord, je vais en faire une, c'est pas forcément évident aujourd'hui, et puis comment vais-je la faire, etc. Donc on voit, il y a tout cet aspect de nourrissement positif et qui va conduire à une instruction. Parce que la discipline, on peut le voir sous l'aspect négatif du bâton, et c'est pas absent dans les proverbes, n'en déplaise à Edwige Antier, député qui a commis cette proposition de loi d'interdire la fessée en privé. Mais la discipline, dans les proverbes, l'instruction, elle est extrêmement plus large que la seule fessée qui parfois est bien méritée pour calmer un petit enfant que sinon rien n'arrêtera. Mais, et deuxième point, les avertissements aussi, là on est plus sur l'instruction. Et quelqu'un a eu cette paraphrase intéressante pour les avertissements, c'est des suggestions appropriées à un moment donné plutôt que des impératifs brutaux. Des suggestions appropriées à un moment donné plutôt que des impératifs brutaux. Alors, comme le disait justement Marc tout à l'heure, ça va varier au cours des âges de l'enfant. Mais néanmoins, je crois que c'est ce qu'on doit retenir de ces textes-là, de ce texte-là. La discipline, l'instruction, l'avertissement, l'encouragement par une instruction appropriée à un moment donné. Et c'est exactement ce que Dieu fait envers nous. De sorte que, en tant que père, en tant que parent, eh bien, de temps en temps, je me demande, mais comment Dieu agit-il comme père envers moi? Et en particulier, je pense à la répétition des leçons que Dieu me donne. Et je pense aussi à la patience que Dieu a envers moi. Et je me dis, comment est-ce que je reflète ces deux côtés-là dans l'éducation que je donne à mes filles?
C'est quelque chose de très fort ce que tu viens de dire, parce que il me semble que souvent il y a eu des chrétiens, des enfants, des personnes qui ont eu du mal quant à leur relation avec Dieu parce qu'ils avaient une mauvaise image de leur père. Et donc dans un sens, nous les pères, on a ce défi d'illustrer, de montrer quelque chose de Dieu dans nos vies vis-à-vis de nos enfants. C'est une chose, moi j'ai pas connu mon père et ça a été une recherche dans ma vie. C'est même encore une recherche aujourd'hui. Et quelque chose de découvrir l'image de Dieu d'une certaine manière, du Père. Mais quel beau défi on a, il ne faut pas qu'on en ait peur, mais aussi quelle responsabilité. Parce qu'en fait, l'autorité, ce n'est pas de l'autoritarisme, et Dieu n'agit pas comme ça. Et ensuite, quand Dieu discipline, alors même avec le côté souffrance, il a un projet, afin que vous participiez à sa sainteté, c'est ce qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux. Donc le projet de Dieu, c'est élever. Dans le mot élever, il me semble aussi, en français, la notion de tirer en haut. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est quelque chose d'un beau défi. Et encore une chose, pour l'autorité, qui ne s'impose pas, tout à l'heure, j'espère que les Bordelais vont pas trop râler, parce que je crois que je le dis un peu trop souvent, peut-être, mais l'autorité découle de l'obéissance, j'ai déjà dit, je crois, tout à l'heure. Et on a l'exemple dans l'histoire du centurion avec le Seigneur, dans Luc 7, le centurion avec le Seigneur, il dit, ne viens pas chez moi, tu peux de loin guérir mon esclave. Mais il lui dit pas, tu as l'autorité pour le faire. Il lui dit, moi je suis quelqu'un qui est sous l'autorité d'autrui. Et je dis à mon soldat, va, et il va, viens, et il vient. Et il montre que l'autorité qu'il a indiscutée par ses soldats découle du fait que lui-même est sous l'autorité de quelqu'un. Et il me semble qu'il y a une belle leçon là. Plus nous serons vraiment réalisant l'autorité sous laquelle nous sommes, l'autorité du Seigneur, et il est question de mettre sous les avertissements du Seigneur, plus je vivrai ce fait que le Seigneur est réellement le Seigneur dans ma vie, plus alors l'autorité sera, je vais dire, peut-être pas naturelle, c'est pas le bon terme, plus l'autorité de parents, ou même dans l'assemblée, plus cette autorité découlera du Seigneur réellement. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très, très beau à la fois, et puis très important.
On retrouvera la même exhortation, le même ordre quand il va être question tout à l'heure des esclaves et des maîtres. Quand il est dit aux esclaves d'obéir au maître comme au Seigneur, il va le retourner après au maître en leur disant « Maître, faites de même ». Celui qui n'est pas soumis à une autorité ne peut pas lui-même bien exercer l'autorité. C'est tout le principe, me semble-t-il, qu'on voit dans tous ces passages. Ce qui me frappe, on l'avait dit tout à l'heure, le chapeau de tous ces enseignements pratiques, c'est étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. On va le retrouver partout décliné et toujours dans la crainte de Christ. Quand il est parlé des femmes, soyez soumises à vos propres maris, c'est dans le Seigneur. Les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Les esclaves ou les serviteurs ou les ouvriers, à vos maîtres selon la chair, comme au Christ. Il y a toujours après, c'est un équilibre, l'obéissance, la soumission, qui sont un principe fondamental, je crois que c'est Jean-Luc qui l'a dit tout à l'heure, la base, le péché, c'est la désobéissance. C'est donc abolir ces notions d'autorité, d'obéissance, c'est sortir du terrain de Dieu. La foi, croire, c'est obéir. Celui qui ne croit pas, dit le Seigneur, désobéit. Donc c'est quelque chose de fondamental. Quand on a rappelé tout à l'heure un peu mai 68, il est interdit d'interdire ni Dieu, ni maître. C'est vouloir supprimer tout ce qui est selon l'ordre fondamental, basique de Dieu. Mais il y a toujours cet équilibre. C'est toujours dans l'amour. Femme, soyez soumises à vos maris, mais mari, aimez vos propres femmes. Maintenant, on le voit maintenant pour ce qui est dit aux enfants, obéissez à vos parents, mais aussitôt aux pères, ne les provoquez pas. Il ne faut pas que ce soit de l'autoritarisme, ne les provoquez pas. Et je termine pour aussi cette nuance qu'il y a dans élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Les avertissements, c'est plutôt, comme il nous a été dit, plutôt sans doute tous les enseignements, tout ce que nous leur apprenons, tout ce que nous leur disons. On a l'exemple dans le livre des Proverbes, un père qui parle à son fils et qui lui donne des enseignements, qui le prévient pour tout ce qui peut le rencontrer, les dangers dans la vie. Mais après, il y a aussi la discipline. La discipline, c'est plutôt le passage à l'acte, et si c'est nécessaire, peut-être la punition ou le châtiment. On a donné l'exemple tout à l'heure de Samuel. Il me semble que c'est intéressant parce que l'Éternel prononce une condamnation très sévère. Tu honores tes fils plus que Dieu. Tu les laisses faire. Et pourtant, quelques chapitres avant, on avait vu que Samuel, il les avait avertis. Il leur avait dit « Non, mes fils, vous ne faites pas bien. » On entendait, il s'était contenté de leur parler. Il faut d'abord parler, avertir, mais quelquefois, il faut quelquefois passer à l'acte. Et c'est difficile, ça fait mal. Et je voudrais juste, on a fait allusion à Hébreux 12, mais on a un exemple de ces avertissements de la discipline. Ce que nous devons agir envers nos enfants, les éduquer, les élever, comme Dieu fait pour nous. Je propose qu'on relise quelques versets de Hébreux 12. Hébreux 12, au verset, milieu du verset 5, « Mon fils, ne Ne méprise pas la discipline du Seigneur. Ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline, il fouette tout fils qu'il agrée. Ces principes de soumission, d'obéissance, doivent être sous-tendus par l'amour. Si on les sépare, ça ne marche pas. Vous endurez des peines comme de la discipline, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Comment élevons-nous nos enfants? Que faisons-nous avec eux? De plus, nous avons eu des pères dans notre chair pour nous discipliner, nous les avons respectés. Ne serons-nous donc pas beaucoup plus tôt soumis au Père des esprits et nous vivrons? Car cela disciplinait pendant peu de jours, selon qu'il le trouvait bon. Mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté.
Père, ne provoquez pas et n'irritez pas Colossiens afin qu'il ne soit pas découragé. Je vous cite trois lignes de M. William Kelly parce qu'elles sont bien tournées, elles sont assez modernes aussi pour du 19e siècle. Quelle connaissance du cœur, tant des vieux que des jeunes. Combien la parole, après avoir insisté sur l'obéissance, ajoute des considérations de tendresse, de peur qu'un exercice trop rigoureux et capricieux de l'autorité parentale n'exaspère. Le risque, effectivement, c'est que les pères ou les mères ne soient pas disciplinés eux-mêmes et veuillent exercer la discipline. Et en fait, sous l'effet de la colère, vont finalement provoquer, irriter, et ça va produire un découragement ou une aigreur, et c'est peut-être des fois le test. Si on a produit une aigreur, est-ce que finalement on n'a pas fait plus de mal avec la discipline qu'on a voulu exercer, plutôt que si on avait laissé faire ce qui était en train de se faire? Donc des fois, on a comme principe, ah, il faut que j'agisse, hein, alors il faut que j'agisse là. Et puis finalement, on se laisse embarquer par cette règle qu'on s'est dit, ah ben là c'est le moment d'agir. Et à la fin, on se dit, mais mince, si j'avais pas agi, les conséquences auraient été bien moins graves que ce que j'ai peut-être fait. Donc les parents ont besoin d'être eux-mêmes sous la discipline, et ça rejoint ce qu'on avait lu l'année dernière, que c'est finalement par l'esprit qu'on peut réussir tout ça. Et ça pourrait bien se rapprocher un peu de Éphésiens 5, 18, « Et ne vous enivrez pas de vin en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. » Parce que finalement, le parent imprévisible, on ne sait pas comment il va réagir, un jour il tape très fort et un jour il laisse courir, c'est un peu comme la personne ivre. Imprévisible, on ne sait pas comment il réagit. Et finalement aussi, celui qui surréagit et qui exagère et qui exaspère, qui irrite ou qui provoque, hein, la surréaction, c'est aussi assez proche de la personne ivre. Donc finalement, éduquer, c'est aussi être conduit par l'esprit, soi-même être dans la discipline, soi-même être sous l'autorité et donner ça. Et dans les avertissements dont on a parlé, donc effectivement l'idée des proverbes en parle, de tout ce que, voilà, de tout ce que le souvenir qu'il avait, Salomon avait de l'enseignement qu'il avait reçu, c'est tout le parler, c'est tout le dit, hein. Mon père disait toujours, hein, c'est quelque chose qui est fort, il y a des choses que l'on doit montrer, un exemple à donner, et puis effectivement, il y a des choses que l'on dit avec pas la crainte de répéter. Et on sait bien qu'en répétant, eh bien après, il y a un jour quelqu'un qui dira, ben mon père disait toujours.
Une chose, le Seigneur a dit aux pharisiens, leur a fait reproche. Vous faites porter au peuple un fardeau que vous ne pouvez pas porter vous-même et que vous ne voulez pas porter. Alors je pense que, pour conclure un peu ce que tu viens de dire, je pense qu'on peut nous aussi ne pas jamais faire porter à des enfants des choses que nous-mêmes nous ne portons pas.
Alors, c'est vrai que ce sujet pourrait nous entretenir toute la journée. On va essayer peut-être de le mettre plus en pratique. Et on va peut-être passer au paragraphe suivant, donc les versets 5 à 9, avant la pause de midi. Mais pensons quand même, pour finir cette question, enfin pour en dire, c'est pour nous un privilège, si Dieu nous donne des enfants, de pouvoir participer à cette préparation, à l'éveil de nos enfants vers Dieu, de découvrir dans nos enfants un intérêt qui s'éveille pour le Seigneur. Et puis quand ils se convertissent, alors c'est le début peut-être de quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Mais finalement, si nos enfants sont placés dans des familles chrétiennes, c'est un privilège extraordinaire. Ils ne sont pas élevés comme les autres enfants, parce que on prie pour eux, ils sont sous la bénédiction du Saint-Esprit, on lit la parole de Dieu ensemble, on a envie, nous comme parents, d'honorer le Seigneur et de leur montrer la joie qu'il y a de vivre pour le Seigneur. On a pu connaître plusieurs d'entre nous ça dans nos propres familles. Alors voilà, ça c'est un privilège. On a parlé aussi de discipline, c'est nécessaire, mais on est là dans une mise à part. Voilà, préparer nos enfants pour entrer en contact vivant avec notre Père, pour qu'il soit leur Père. Et voilà, et ça nécessite toute une approche, être près d'eux, voilà, et eux près de nous. Et voilà, nous ne sommes pas que dans la famille, nous sommes aussi dans la société. Et dans la société, c'est vrai, où on est au milieu des injustices, c'est vrai, ça crie tous les jours, hein, les banderoles, l'injustice pour ceci, l'injustice pour cela. Et nous voilà comme chrétiens, là au milieu de tout ça, que faut-il faire, hein? Eh bien, vous voyez, il y a une exhortation pour les esclaves chrétiens. Et puis il y a aussi des exhortations pour les maîtres chrétiens. Et voyez là, on a parlé d'obéir, on est déjà entré dans le sujet tout à l'heure, mais on continue là, ici. Voilà, essayez de penser que celui qui me dirige là est de la part de Dieu, hein, le recevoir comme de la part de Dieu. Et puis, voilà, il y a cette crainte, il y a cette simplicité de cœur, sert Christ. Tout est en relation dans cette lettre, et pour notre vie, c'est ma relation avec Dieu, avec le Seigneur. Et alors, cela va influencer mes relations avec mon employeur. Et moi, je ne sais pas trop en parler de ce côté-là, mais il y a après le verset 9 qui me concerne davantage.
Là aussi, je crois que ça vaut la peine, en quelques secondes, de se replacer un peu dans le cadre historique, puisque l'esclavage, heureusement, est aboli depuis 1848 en France. Il l'avait été quelques années auparavant en Angleterre, d'ailleurs sous l'influence d'un chrétien vivant qui s'appelait William Wilberforce. Et nous ne vivons pas, comme tu dis, officiellement, parce qu'il y a des esclaves cachés, malheureusement, de temps à autre, la presse s'en fait l'écho. Nous ne vivons pas dans un siècle où l'esclavage existe encore, au moins en France. Mais à l'époque, c'était tout aussi révolutionnaire pour Paul de s'adresser aux esclaves que de s'adresser aux enfants. Parce qu'un esclave n'était pas... c'était une chose. C'était la propriété du maître, c'était un bien, comme un bien mobilier parmi d'autres. Donc, qu'il s'adresse aux esclaves, conférer ipso facto à l'esclave une personnalité, une reconnaissance qui était absolument extraordinaire. Il se mettait sur le même plan que l'esclave, ce qui était hyper choquant, surtout lui qui était romain, etc. Et c'est toute la vigueur de Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme dans le Christ Jésus. Et il le reprend implicitement au verset 8 en disant « Chacun, soit esclave, soit homme libre, quelque bien qu'il fasse, le recevra du Seigneur. » Et imaginez-vous, vous êtes à Éphèse, vous avez réussi à vous éclipser pendant un petit moment pour aller dans une réunion d'église, on lit la lettre que Paul vient d'envoyer par Tychique, Vous êtes esclave et vous entendez ces paroles-là. Vous avez entendu les 5 premiers chapitres des choses élevées et vous dites « Oui, c'est très bien ça. J'ai une stature en Jésus-Christ, gloire à Dieu, mais je suis quand même esclave et je suis quand même la chose de mon maître. » Et alors, comment vais-je faire pour honorer le Seigneur, pour le servir, etc., en tant qu'esclave? Je ne m'appartiens pas, je n'ai pas la liberté, transposons aujourd'hui, d'aller distribuer des traités, de faire des visites, d'aller encourager, de participer à une réunion d'études, etc. Je suis esclave, je suis coincé. Et la parole vient et dit, vous servez le Seigneur Christ. Je reprends le parallèle de Colossiens, tout à l'heure Frédéric nous faisait le parallèle avec Colossiens. Vous êtes esclaves du Christ, asservis au Seigneur, nous dit Éphésiens au verset 7, de manière très proche. Esclaves de Christ. Ah, alors ça change la dimension. Et je pense que si on transpose maintenant aujourd'hui, ça peut être un encouragement pour certains qui parmi nous ici se disent, mais j'ai un travail qui par le fait de la société, de la pression à la productivité, etc., me prend beaucoup et je n'arrive pas à dégager du temps pour le Seigneur comme je souhaiterais l'avoir parce que j'aimerais pouvoir faire plus de choses pour lui. Et celui-là qui s'est mis à plein temps ou qui est enseignant ou qui est à mi-temps parce qu'il a pu se mettre à mi-temps, etc., qui a plein de temps pour le Seigneur et moi à côté, qu'est-ce que je suis, etc. Et ça peut être un encouragement. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ce soit une situation qui soit idéale. Et Paul dit bien en 1 Corinthiens au chapitre 7, si tu peux te rendre libre, saisis l'occasion. Peut-être il peut y avoir des occasions qui nous permettent d'être un peu plus libres. Mais néanmoins, d'une manière générale, c'est un profond encouragement de dire, eh bien, je ne sers pas simplement le Seigneur quand je fais un acte qu'on qualifierait de bonne œuvre spirituelle, mais je sers aussi le Seigneur en continu dans ma vie. Et heureusement, parce que du coup, ça augmente tout de suite énormément notre champ de service.
Je pense à Philémon. L'épître à Philémon nous parle ainsi d'un esclave qui avait fauté et qui avait quitté son maître. Et à Onésime, bien sûr, a rencontré l'apôtre Paul sur son chemin et il s'est converti, il est un frère, et il est beau de voir comment l'apôtre le renvoie à son maître. On voit que l'ordre des choses, il était toujours esclave de son maître. Mais l'apôtre dira, ressens-le que c'est un frère, ce n'est plus un esclave maintenant. Et on comprend que, on voit comme l'amour de l'apôtre pour incliner le cœur de Philémon à reprendre Onésime avec lui. Et il dira, c'est peut-être pour cette raison qu'il était séparé de toi, puisque avant cela, il lui dit que ce n'était pas par contrainte, mais que ce soit volontaire ce qu'il fait. Mais nous le recevoir comme un frère bien-aimé, nous a-t-il dit. Alors pour écouter, il a dit, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte. On voit comment l'apôtre, avec quel amour, va incliner le cœur de Philémon, qui va reprendre Onésime, à son service. Mais ce sont deux frères, ce n'est plus l'esclave et le maître. Il y a aussi quelque chose qui est touchant. Un maître exemplaire avec son personnel, nous le trouvons dans le livre de Ruth. Boaz, que va-t-il dire lorsqu'il vient dans les champs voir le travail qui se fait? Il va dire, livre de Ruth, au chapitre 1er, Boaz va venir au champ. Et il dit, il vient de Bethléem, l'Éternel soit avec vous, dira-t-il. Quel exemple, voilà un maître chrétien qui parle à ses serviteurs. Et au fond, ça correspond un peu à paix vous soit. Voilà un maître exemplaire, loin de crier sur son personnel. Il est beau de voir un maître chrétien, quel exemple. Vous dire comme si c'était paix, vous soit l'Éternel soit avec vous.
Le texte que nous avons devant nous est important pour le temps actuel. Je ne travaille plus, mais j'ai travaillé pendant longtemps. Je crois que les conditions, en particulier pour les cadres, sont peut-être plus difficiles que celles que j'ai connues. Mais on pourrait... Un des problèmes que celui qui travaille sous l'autorité d'un maître et qui a lui-même aussi d'autres sous son autorité, un des problèmes, c'est d'avoir un comportement schizophrène. En ce sens que lorsqu'il est au travail, on ne voit pas que c'est un chrétien. Et lorsqu'il est en famille ou dans l'assemblée, il a un comportement chrétien. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que lorsqu'on accepte un travail chez un maître actuel, chez un patron actuel, il faut qu'on en accepte les règles. On signe un contrat, il y a un règlement interne, qu'il soit écrit ou pas, mais le plus souvent, même maintenant, il y a une obligation pour qu'il soit écrit. Et lorsqu'on a signé un contrat de travail, on est tenu de le respecter. Et alors, ici, l'apôtre nous dit clairement, eh bien, faites attention. Bien sûr, soyez soumis aux règles de la société, de l'industrie, etc., ou de l'artisan chez lequel on travaille. Vous êtes tenu à obéir à vos maîtres selon la chair. Mais ça ne vous dispense pas non plus d'avoir un témoignage chrétien. Et tout l'exercice, et c'est un très bel exercice, c'est d'avoir cette harmonie dans notre travail entre ce que nous devons à Dieu et ce que nous devons à nos maîtres. C'est pour ça que je dis que ce texte est essentiel, parce qu'il nous montre comment est-ce qu'on peut avoir un comportement unique et non pas un comportement schizophrène. C'est-à-dire avoir comme une double personnalité. Non, nous sommes un devant notre maître et nous sommes un, bien sûr, devant Dieu. Alors, il faut avoir toujours dans sa pensée, dans son arrière-plan, qu'il y a une volonté de Dieu et que cette volonté soit que je sois un témoin du Christ. Il peut y avoir, j'en ai connu personnellement, des situations très conflictuelles de manière interne. Je ne parle pas de ce qui est des revendications sociales ou autres, mais de manière interne, des situations très conflictuelles où on ne se sent pas à l'aise entre ce que l'on fait ou que l'on demande de faire à ceux qui sont placés sous notre autorité et ce qui est dû, ou du moins ce que je pense être dû à Dieu. Et chaque fois, c'est un exercice, exercice de prière, exercice de dépendance, et là aussi, on fait l'expérience que le Seigneur apporte des solutions, ouvre des portes auxquelles on ne pensait pas. Donc, vivre dans son travail, c'est aussi vivre de foi devant Dieu dans des situations qui ne sont pas évidentes. Alors, ne perdons pas, pour ceux qui sont dans cette situation, ce texte, je le répète encore, est tout à fait essentiel, parce que nous ne recevrons pas peut-être une récompense sur la terre, mais nous avons à plaire à Dieu, et notre récompense sera là-haut, selon le propos, bien sûr, du Seigneur, selon ce qu'il fera. Mais il y a une espérance chrétienne aussi dans le travail. Et je trouve cela, j'ai toujours trouvé cela merveilleux de voir comment l'apôtre dit ici, mais il y a peut-être des choses que vous ne verrez pas sur la terre, des fruits que vous ne verrez pas sur la terre, mais vous les verrez dans le ciel. C'est extraordinaire, hein, pour quelque chose qui est éminemment pratique et pour aujourd'hui.
Il y a déjà pas mal d'années, tu te souviens des études de Zurich, on a vu ce chapitre. Et je m'étais dit à un moment donné, en voyant ce qui était autour du micro, il y a plusieurs frères à l'œuvre, et il y a pas mal de retraités. Alors ici, il y a pas mal de retraités. J'espère qu'on est tous à l'œuvre, et à l'œuvre du Seigneur. Et alors, je ne sais pas, c'était pas bien, j'étais jeune, plus jeune que maintenant, et j'avais mis des bémols dans ma tête en les écoutant, c'était pas juste. Et puis, d'un autre côté, est-ce qu'on a le droit de parler de ces passages, puisqu'on n'est ni esclave? Moi, c'était, dans mon travail, c'était plutôt le verset 9 qui me concernait. Mais d'un autre côté, il y a quand même, c'est la parole de Dieu, et il y a quelque chose de formidable, je trouve, c'est que quand on prend ces passages, on a déjà remarqué, le passage commence toujours par celui qui est peut-être le moins considéré. Alors on pourrait se dire, s'il y a plus de versets pour les esclaves, ou pour les subordonnés, peut-être qu'ils en ont plus besoin que les autres. Ça, c'est la mauvaise interprétation. Il me semble que la pensée de Dieu, c'est de mettre en valeur. Et quand on voit ces versets, celui qui pourrait se sentir découragé est mis en valeur d'abord dans sa personnalité, et ensuite il est mis en valeur dans son projet de vie. Il est question de servir joyeusement, il est question d'être, on l'a dit, vous servez le Seigneur Christ. Moi j'imagine l'esclave de Colosse, qui il est en train de, on lui lit là, et puis il est là, tout d'un coup, il entend le frère qui lit, vous servez le Seigneur Christ. Moi je vois l'esclave, il se redresse. Ah, j'ai une bannière, j'ai un projet, je sers le Seigneur Christ. Et vous connaissez peut-être l'histoire de ces hommes qui travaillaient à la construction d'une cathédrale, et quelqu'un vient visiter, et puis il voit le premier qui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il taille une pierre. Il dit, je suis en train de travailler pour nourrir ma famille. Et puis il voit le second, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien tu vois, je suis en train de sculpter une pierre. Puis il voit le troisième, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis en train de construire une cathédrale à la gloire de Dieu. Et au fond, ta vie, notre vie à chacun, où que nous soyons, nous sommes en train de préparer quelque chose pour la gloire de Dieu maintenant et puis dans le futur. Et à la fin de ce qui est dit aux esclaves, la récompense, quoi qu'il tu fais, tu la recevras du Seigneur. Et la rencontre au bout, c'est rencontrer celui qui pourra nous dire, j'espère à chacun de nous, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Tu recevras cela de la part du Seigneur. Alors maître, dans notre vie, qu'on soit encore au travail, que l'on soit subordonné, que l'on ait un poste de responsabilité, ou que l'on soit peut-être à la fin de la vie retraité, voir devant, et voir ce moment de la rencontre avec celui qui va nous dire, j'espère à chacun de nous bien, entre dans la joie de ton maître.
Oui, alors c'est un peu difficile de parler de ça, de tout ça. J'ai eu quand même, avant d'être à la retraite, à obéir à un patron. Et quand je lis ces versets d'Éphésiens, il y a des choses qui m'arrêtent. C'est le mot obéissance qui est assez fort. C'est le mot crainte et tremblement. Je ne lis pas ces versets en pensant qu'il faut avoir peur de son patron. Pas du tout. Mais je lis ces versets en pensant que quand Dieu nous met au-dessus un chef qui a une autorité, on doit le respecter. Et il me semble que l'Écriture est tout à fait claire là-dessus. Ça s'inscrit tout à fait à l'inverse de la contestation. J'ai rarement vu une note de service arriver sans qu'elle soit critiquée par quelqu'un. C'est français peut-être, mais c'est pas chrétien. Et les versets sont là pour nous aider. Et un encouragement qui est apporté, c'est dans l'Épître à Tite, où il est aussi question des esclaves, au chapitre 2, verset 9, exhorte les esclaves à être soumis. Verset 10, ne détournant rien, ce qui appartient à l'entreprise ne m'appartient pas. Il faut quand même le savoir. Même si tout le monde ne le sait pas dans le pays. Et la fin du verset 10, donc Tite 2, fin du verset 10, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Si dans mon état d'esprit, dans la manière de servir chaque jour, j'ai l'état d'esprit d'un chrétien qui respecte son Seigneur, j'ai pas besoin de faire de discours à mes collègues, d'ailleurs ils ne le supporteraient pas le plus souvent, mais c'est une illustration de ce qui est dans l'Écriture et de ce qu'est notre Dieu, un Dieu d'autorité qui veut les biens pour les autres.
Et si on nous sommes placés comme ça sous l'autorité, eh bien, on sommes enseignés aussi à prier pour les autorités et prier pour ses chefs, prier pour sa hiérarchie. C'est une très belle expérience et on peut vraiment s'encourager à le faire. Ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes. Ça, c'est fort. Ne servant pas sous leurs yeux seulement, n'ayant pas une attitude déjà différente si le chef regarde par rapport à s'il ne regarde pas. Se sentir toujours sous les yeux du Seigneur d'abord, dans les décisions que l'on prend au travail, dans la façon d'accomplir une tâche, la façon d'écrire un email, est-ce que d'abord mon chef serait d'accord avec ce que je fais, ou ce que je dis, ou ce que j'écris, est-ce que le Seigneur est d'accord? Donc, pas sous leurs yeux seulement, déjà avoir le sentiment qu'on nous regarde au travail, le chef, et puis le Seigneur, comme voulant plaire aux hommes. Des fois, on est tenté dans une entreprise de vouloir plaire aux hommes, de vouloir plaire au chef, de vouloir plaire aux autres, d'avoir toujours plutôt que d'être dans l'action pour servir la tâche qui nous est confiée. Eh bien, en fait, d'avoir un agenda caché, d'être là pour plaire, en fait. Et c'est vraiment une discipline de dire là ce que je suis en train de faire, ou ce que je suis en train de dire, ou ce que je suis en train de... Voilà, telle tâche, c'est dans quel esprit qu'elle est faite. Est-ce que c'est pour plaire, simplement? On a parlé du fait qu'on est asservi au Seigneur et que c'est quelque bien qu'il fasse, il le recevra du Seigneur, soit esclave, soit libre. Donc, on travaille pour le Seigneur au travail. Donc, il n'y a pas vraiment de, tu l'as dit, on est tous à l'œuvre. Il n'y a pas vraiment de séculier et de à l'œuvre, finalement. Il y aura bien des enseignements sur le fait que quelqu'un qui annonce la parole, eh bien, reçoit de l'aide. Mais justement, on est tous à l'œuvre dans le sens que s'il y a des gens qui sont à 100%, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui soient au boulot pour leur donner de l'argent. Donc c'est aussi pratique que ça. Et donc nous sommes tous à l'œuvre aussi dans notre travail. Mais on obéit à notre chef. Et on ne détourne pas les biens de l'entreprise. Et donc, en particulier, on n'est pas payé pour évangéliser au travail. On n'est pas payé pour passer une demi-heure à la pause café pour annoncer la parole. Il y avait un frère en Amérique, frère Bob Spotts, qui racontait justement un de ses collègues de travail s'intéressait. Il avait envie de parler, il sentait un intérêt réel. Alors, il a dit, écoute, tu choisis un lieu, tu choisis une heure, et je viens et je te parle. Eh bien, effectivement, quelques jours après, il s'est fait inviter, il y avait 4 ou 5 couples qui avaient été invités, ils ont passé jusqu'à 1h du matin, et ça s'est pas fait dans l'entreprise, et ça a été le début de réunion de maison, et je crois même que tous ces couples initiaux sont tous été ensuite convertis. Tu choisis un lieu, choisis une heure, je viens et je te parle. Donc on n'est pas au travail pour voler notre temps de travail, même si on se dit oh ben c'est pour l'œuvre. Hein, faire attention.
De l'obéissance et de la soumission, il me semble que ce passage et d'autres nous montrent que pour Dieu, l'obéissance et la soumission sont ce qui leur donne leur valeur. Et leur sens, c'est qu'ils s'adressent, Dieu s'adresse à des gens libres. Quand Dieu donne la loi à son peuple, il lui dit, je t'ai
j'étais libéré du joug de la maison de servitude. Et ici, ce qui donne l'obéissance, la soumission, celle qu'on a lue au chapitre 5, en ce sens-là, celles qu'elles sont le fait d'hommes libres. Et c'est paradoxal que Paul dise à des esclaves, obéissez. Mais la question ne se pose pas. L'esclave, il n'est même pas maître de sa volonté, il doit faire ce qu'on lui dit sans discussion. Et Joël l'a déjà dit un petit peu au début, mais il me semble que c'est là la dignité que Dieu donne à ses esclaves, c'est qu'il leur dit un peu ce que Pierre dira au chapitre 2 de son épître, au verset 15, il parle d'être soumis à tout ordre humain. C'est ici la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme libres et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté. Dieu nous place dans la liberté et nous dit, étant libres, vous avez à accepter cet ordre qui est celui que j'ai établi. Et il me semble que, je crois qu'on ne peut pas transposer, si les esclaves qui entendaient ce texte nous entendaient le commenter, peut-être qu'ils rigoleraient doucement, il ne faut pas transposer directement tout ce qui est dit là, mais il me semble que, en tout cas, un texte comme celui-là, personnellement, m'a souvent aidé à ne pas subir une situation professionnelle difficile, mais à prendre le recul et à l'accepter pour la vivre avec plus de sérénité. On ne change pas la situation, il y a des situations extrêmement douloureuses, difficiles, mais ici, Dieu transforme le service de l'esclave, non plus tu n'es plus un serf, mais tu peux agir de cœur, tu peux vivre de cœur, même joyeusement, voilà, tu peux avoir ce travail en toi-même, parce que moi je te donne la liberté, et c'est devant moi que tu es, c'est avec moi que tu es, et donc tu peux ne plus subir ta situation, mais en l'acceptant, acquérir plus de sérénité et de joie dans ce que tu fais, sans être séparé de ton Seigneur.
Il peut y avoir des situations difficile, je pense à la situation dans des sociétés, qu'elles soient peu petites ou grandes, auxquelles on est confronté, la situation de la revendication. Je vais aller peut-être un petit peu plus loin qu'Élie. C'est vrai qu'il y a des revendications qui sont justes, que l'on peut partager complètement en tant que chrétien. Il y en a d'autres où ce n'est pas le cas. Que faire ? Alors, je ne veux pas donner une règle, mais ce texte nous est extrêmement utile. Ces situations-là sont aussi entre les mains de Dieu, tu l'as dit tout à l'heure. Nous prions pour ceux qui sont à la tête d'une entreprise, et il nous faut attendre ce que Dieu produit, ce que Dieu fait. C'est Dieu qui les a placés là. Nous avons accepté cette condition, je le répète, donc d'être des employés dans une société. Et je crois qu'il faut être extrêmement prudent, pour ne pas dire plus, à s'associer à des situations de revendication qui nous opposent à l'autorité que nous avons signée. C'est un déni de l'attitude que nous avons acceptée quand nous sommes entrés. Alors je sais qu'il y a... Il y en a peut-être plusieurs ici qui ne sont pas d'accord. Je demande à ce que l'on réfléchisse bien sur le fait que c'est quand même Dieu qui a autorité sur toute chose. Nous avons bien sûr à témoigner de ce que nous pensons. Et cela... Lorsqu'il y a des choses justes, nous avons à les dire. Nous avons à les présenter par la prière à Dieu. Mais nous révolter est quand même quelque chose qui va beaucoup plus loin.
Nous avons, enfin, nos parents ont connu deux frères qui étaient dans l'assemblée, et l'un était chauffeur et l'autre était le grand patron. Et on peut dire qu'il régnait une communion entre ces deux frères, très, c'était des exemples.
jamais il y a eu de heurts entre eux. Parce que d'un côté, le chauffeur obéissait à son patron, jamais eu de reproche. Alors le chauffeur était très doué dans la parole. Donc dans la semaine, il obéissait à son patron. Et le dimanche, son patron appréciait le don que son chauffeur avait reçu de la part du Seigneur. Il y avait un équilibre ainsi entre les deux qui réjouissait même l'assemblée.
Juste remarquer que dans tous ces passages, il est adressé des recommandations à des catégories de personnes, mais il est dit aux enfants d'obéir, et il est dit au père de ne pas hériter, il est dit à l'esclave d'obéir, il est dit au maître, je ne sais plus exactement, mais il a son ordre à lui. Chacun a reçu un ordre du Seigneur suivant sa position. Et l'ordre qui est pour les enfants n'est pas pour les parents. Il n'y a pas un pendant parent, faites obéir vos enfants, etc. C'est intéressant de remarquer.
S'arrêter là-dessus. On peut chanter un peu et puis.